présence photographe, c'est quelque chose. Pas moyen de les arrêter. Enfin, il a toutes les autorisations du directeur, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Voilà. Nous sommes bien heureux de vous accueillir et nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Malheureusement, il y a deux piliers des amis des cônes qui sont partis en Italie et ma foi qui n'ont pas pu revenir. Et enfin, ils sont remplacés par celui qui reste, Monsieur Rosis, qui les représente tous ici. Et je profite pour souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent ici, qui viennent pour la première fois à cette réunion des Amis des Cônes, qui maintenant, je ne sais pas combien d'années d'existence, déjà un bon nombre de fois, nous nous sommes réunis comme ça, soit au cours du mois de janvier, soit au cours du mois de février, pour mettre d'abord prier en commun, pour l'Église, le pape, pour les évêques, pour vos familles, pour toutes les grâces dont nous avons besoin en ces temps difficiles de l'Église, et puis aussi pour Écône, pour la fraternité, pour tout le travail qui se réalise par nos prêtres, nos religieux, et en même temps, eh bien, pour faire un peu le point chaque année de petits événements, des petits et des grands événements. Donc, j'en profite pour saluer ici Maître Hardy, qui est par une bonne occasion en vacances en Suisse, et qui est un peu notre Saint-Joseph de la France, par tous ses bons services. Il est à Alençon, pensez-donc, il habite dans la ville de la Troisième Vierge, et il m'a même donné la photocopie du contrat de mariage des parents de Sainte Thérèse qui se sont fait dans son étude. C'est beau, ça. Donc, successeur des notaires qui ont reçu le contrat de mariage, établi le contrat de mariage, des parents de Sainte Thérèse. Je remercie beaucoup parce que grâce à tous ces soins, eh bien, nous avons pu organiser un peu. Vous savez ce que c'est que le district de France est immense. Ça représente beaucoup de maisons, beaucoup de sociétés, beaucoup de soucis, aussi bien pour le supérieur du district que pour Maître Hardy. Et il arrive toujours à trouver des solutions. Voilà, alors, je tiens ici à le remercier de tout cœur. Heureusement que dans tous les pays où nous sommes, nous trouvons une immense bonne volonté qui nous sont données par la Providence et qui nous aident à vivre aussi d'une manière légale, car nous ne tenons pas à cacher ce que nous faisons ni à faire des choses illégales dans les pays où nous nous trouvons. Tout ce que nous faisons est légal. Mais c'est qu'une fois que nous sommes quelquefois affrontés à une légalité qui n'est pas facile, nous en savons quelque chose pour la chapelle des Cônes. Voilà, bientôt 10 ans que nous faisons des démarches pour avoir cette chapelle. Ma foi, pas encore abouti. Ça va peut-être venir, patience, ça va venir. À ce propos-là, je vous donne quels sont les petits événements qui ont marqué un peu cette année dans le Valais. D'abord le séminaire. Le séminaire a été divisé, comme vous le savez. On a hésité entre le fait de diviser le séminaire du haut en bas, c'est-à-dire avoir les 6 années d'études ici, 6 années d'études à Flavigny, ce qui aurait été évidemment un séminaire français d'un côté et pratiquement de langue anglaise, ou à peu près, ici. Alors il nous a semblé qu'il était quand même préférable de diviser horizontalement et de faire 3 années à Flavigny, et après les 3 années qu'il place à Flavigny, les séminaristes viendraient ici à Écône faire aussi 3 années. Donc une année de spiritualité et 2 années de philosophie à Flavigny et 3 années de théologie ici. En même temps, d'abord l'occasion de diminuer un petit peu le nombre des élèves, bien que c'est parce que le nombre était trop important qu'on a été obligé de subdiviser cette division. C'est impossible. Il y avait 130 élèves à loger, nous n'avons que 121 chambres nouvelles, dans lesquelles il y a aussi des frères, il faut bien en garder l'une ou l'autre pour ceux qui sont de passage. Alors la maison débordait, c'était plus possible. Et puis c'était trop lourd pour le directeur aussi, qui ne pouvait pas suivre 130 élèves au cours de l'année, c'est impossible. Alors on a décidé donc de diviser, et la première année maintenant à Flavigny, le 2 février, je suis allé remettre les soutanes, bénir les soutanes, remettre les soutanes à 34 jeunes gens pour la fraternité et 5 pour d'autres sociétés. Et donc 34, c'est une cérémonie vraiment extraordinaire, parce que c'est même un beau chiffre, 39 jeunes gens qui prennent la soutane et qui sont tonsurés, c'est vraiment magnifique. C'est pour le commencement de Flavigny, vraiment un beau commencement. Et il va falloir évidemment, là aussi, faire quelques aménagements, parce que la maison n'était pas faite pour recevoir tous ces séminaristes, et que s'ils sont maintenant 34, admettons, mon Dieu, il y en a toujours, malheureusement, bien sûr, qui partent au cours de l'année, admettons qu'il reste une trentaine à la fin de l'année, et puis qu'on ait une nouvelle rentrée à peu près de ce genre, ça nous fera évidemment plus de 60 déjà, une troisième année, ça va approcher de la centaine, quoi. Alors une centaine à Flavigny et pratiquement pas loin d'une centaine ici aussi, surtout si, comme l'a décidé M. le supérieur général qui vient d'arriver à l'instant, et il a décidé de faire venir quelques jeunes qui font leur théologie en Argentine ou à Richfield aux États-Unis ou ailleurs, même si nous avons des séminaires qui commencent peut-être au Gabon, en Australie. Faire venir ici les jeunes qui auraient passé 3 ans là-bas dans ces pays, les faire venir ici pour la théologie, de façon à faire une union. Une unité dans la fraternité, que les jeunes prêtres se connaissent un peu, au moins un certain nombre d'entre eux, qu'ils se connaissent de façon à établir des liens étroits entre eux, ce qui facilite beaucoup l'unité de la fraternité, c'est très important. Pas que la fraternité soit faite de pays juxtaposés, vous voyez, de gens qui ne sont même pas capables de se parler parce qu'ils ne connaissent pas les langues, ils n'ont pas... Or maintenant... On a besoin de connaître les langues, vous le savez vous-même. On a tellement de contacts avec les pays étrangers qu'il faudrait que chaque séminariste connaisse au moins 3 langues ou 4 langues. Ça serait une grande facilité pour les communications. C'est le cas de certains d'entre eux, comme notre jeune économe général qui a ses parents ici, M. Lavefelé. Lui, je ne sais pas, il en connaît au moins 5 maintenant. Il est parti en Australie pour aller voir si on peut fonder un séminaire là-bas, voyez. Il est toujours en route aussi. Enfin, en cela, est-ce que vous voulez... Ils ont de qui tenir. Je ne peux pas leur reprocher. Le supérieur général suit bien mes traces, je vous assure. Il n'est pas souvent chez lui non plus. Alors voilà pour Écône. Écône s'est trouvé donc amputé, évidemment, de la spiritualité et de 2 années de philosophie. Alors, évidemment, vous allez trouver, peut-être, dans un an, vous allez dire, mais il n'y a plus de séminaristes, et le bruit va courir, ça y est, ils n'ont plus de vocation, le séminaire est en train de disparaître, et ils n'ont plus que 70, maintenant c'est encore 94, je crois. L'année prochaine, s'il y en a une quinzaine d'ordonnées, vous voyez, ça va tomber à 80, mais un peu moins de 80. L'année suivante, ça va descendre à 60. Vous allez voir la chapelle à moitié vide, vous allez dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe à Écône? Voilà. Pensez que pendant ce temps-là, la maison de Flavigny est en train de se remplir. Alors une centaine d'élèves. Après, quand le Sotlavini vont revenir, évidemment, les nombres sont plus importants et vont remplir de nouveau école. Alors, ne craignez rien. Évidemment, si ce bruit se répand, ça va être à la grande joie de ceux qui ne désirent pas du tout notre développement. Mais ce n'est pas cela, heureusement. Et puis, vous avez aussi la joie d'apprendre que le prieuré de Sierre est ouvert. Nous avons d'ailleurs ici le jeune curé de Sierre, il est quelque part par là, et il est au bout là-bas. Et ils sont deux prêtres. À Sierre, c'est tout de même une étape importante aussi dans l'apostolat, dans notre apostolat ici dans le Valais. Et le prieuré se développe très bien, grâce à Dieu, en attendant qu'il puisse porter aussi un peu ses pas vers la partie de langue allemande du Nord, du Nord, aux sources du Rhône. Parce que dans cette partie-là, il faut reconnaître qu'on n'en a pas beaucoup de succès pour le moment. Mais enfin, petit à petit, j'espérais que ceux qui désirent la tradition pourront la suivre. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup, parce que le pays du Haut-Valais est très attaché à ces traditions. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui seraient très heureux de voir nos prêtres circuler dans leur paroisse. Prieuré Thiers, école de Salvan. Encore un événement. Mon Dieu, mais le Valais va passer entièrement à la tradition, c'est pas possible. École de Salvan, oui, la signature a été donnée il y a 8 jours, je crois, ou 10 jours, enfin, pour une école à Salvan, pour le secondaire en particulier, parce que vous avez déjà une école primaire à Sierre et à Martigny, mais après, quand ces enfants vont avoir fini l'école primaire, où vont-ils aller? Évidemment, ils peuvent, comme quelques-uns font le sacrifice, d'envoyer leurs enfants à l'Étoile du Matin, là-bas, en Alsace, ou bien même à Saint-Michel de Châteauroux. Ce sont des distances énormes, évidemment. C'est que, enfin, même pas ce qui est souhaitable. Il serait bien souhaitable, étant donné qu'il y a tout de même un bon nombre d'enfants suisses qui sont dans nos écoles de France, qu'ils puissent faire l'école sur place. Et c'est ce qui peut-être va commencer au mois d'octobre. Enfin, la maison est déjà acquise, et donc c'est déjà à Salvan. Avec le train de Martigny, qui est maître de Martigny-Chamonix, le train passe à côté de la maison, tous les week-ends, les enfants pourront se retrouver chez eux. Très facile, très simple. Alors, c'est encore une excellente nouvelle. Et puis, malheureusement, je ne vois pas la figure sympathique de M. le curé de Ride ici, je ne pense pas qu'il soit ici. J'espère qu'il va nous rejoindre ce soir, j'espère. Mais M. le curé de Ride a également vraiment le grand apôtre du Valais, on peut le dire, a donc construit avec, c'est bien sûr, l'appui, votre appui et l'appui de tous ses amis, a construit une nouvelle église à Sion. Et Dieu sait si ça a fait ça a provoqué quelques remous. On a bien essayé aussi de retarder la construction, d'empêcher la continuation, etc. Parce qu'évidemment, une église à Sion, pour les traditionnalistes, c'est encore un événement. Et alors le brave monsieur le curé va inaugurer cette église officiellement le dernier dimanche du mois de mars. Il m'a demandé d'être là pour venir l'église. Ce sera certainement une belle fête, avec même une seconde église qui est construite grâce à votre générosité et grâce à la ténacité de monsieur le curé. Ce n'est pas rien. Pas rien. C'est une preuve de votre fidélité à l'église, une preuve de votre attachement à la tradition. Mais c'est que cette église de Sion, sans doute, vaut à monsieur le curé d'être persécuté par le diocèse. persécuté par les autorités du diocèse. Je ne sais pas si vous l'avez su, mais il a reçu, à la date du 17 février, c'est pas vieux, tout un questionnaire. Une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq pages de questionnaire. Le curé de Rive. Alors on lui demande des questions comme ça, comme celle-ci par exemple, vous allez voir. Il ressort de vos écrits et de vos visites à Écône que vous êtes en relation étroite avec la fraternité sacerdotale Saint-Élise. Il n'y a pas besoin de faire une enquête policière pour savoir ça. Êtes-vous prêt à vous distancer formellement de cette fraternité et à rompre officiellement et définitivement avec ses membres? Effrayant, ça. Alors, est-ce qu'il est aussi, reconnaissez-vous le but de l'association Groupement Saint-Antoine de Monté et environ est en contradiction avec l'appartenance à un diocèse dont seul l'évêque légitime est l'autorité? Reconnaissez-vous être un des promoteurs, en tout cas, de l'aumônier de la dite association? Ils savent très bien. Ils savent très bien que le curé va là-bas, il va dire la messe, fait le catéchisme. Ils savent très bien. Vous célébrez régulièrement la messe en plusieurs lieux de culte du diocèse. Lesquels? Vraiment, ils sont bien mal renseignés, vraiment. C'est absolument qu'ils changent un peu leur deuxième bureau. Et selon quel rite? Vous êtes secondé dans votre tâche par des prêtres appartenant à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis ou par des séminaristes d'Écône, oui ou non? Et tout est du même genre. Une chapelle a été construite à Ried en 1981 sous votre direction et votre responsabilité. Une autre chapelle est en construction à Sion. Reconnaissez-vous que vous portez la responsabilité de ces constructions? Il va dire non, sans doute. Bon, monsieur le curé. Alors, vous êtes dans l'erreur et vous avez maintenu vos fidèles dans l'erreur. Êtes-vous prêt à abandonner ces erreurs et à en enfermer vos fidèles? Êtes-vous prêt à tout entreprendre pour détourner les fidèles de ces erreurs? Et voilà. Alors il y en a comme ça, je dis 5 pages. Et ça, il avait à se présenter hier devant un petit tribunal formé par M. le doyen Michel Bourgeois, curé de Lens, M. le doyen Ernest Mély, curé d'Ardon, et l'abbé Norbert Brunner. Que vous devez connaître sans doute, pas moi, je ne les connais pas. Alors je ne sais pas, j'aurais été content de savoir de monsieur le curé si qu'est-ce qui s'est dépassé, ou bien est-ce qu'il y était allé d'abord, parce que je vous avoue que moi je lui avais conseillé de ne pas y aller. Je vous réponds à un questionnaire comme ça, c'est vraiment se moquer du monde. Alors ils connaissent très bien, ils savent très bien tout ce qui se passe, sont très bien renseignés, ils n'ont pas besoin de faire un questionnaire de ce genre-là. Et pourquoi il fait ça? Tout simplement pour défendre sa foi catholique. Alors évidemment, toutes les questions sont l'autorité du pape, l'autorité des évêques, l'autorité de l'évêque, l'autorité, etc. Autorité. Non, encore faut-il que les autorités fassent leur devoir. Encore faut-il que les autorités accomplissent les devoirs de leur charge. Quel catéchisme fait-il enseigner dans le diocèse? Il ne peut pas trop se vanter, il ne pourrait pas qu'il se vante trop, quand on sait, tout le monde sait que depuis un mois ou un mois et demi, il y a 4 de ces prêtres qui se sont mariés, sont bien faits, ils sont partis, des jeunes frères, des prêtres bien en vue. Il ne peut pas problème. Il ferait bien de s'occuper de ses prêtres et de les évangéliser, de les sanctifier, de sanctifier son nom, au lieu de venir pourquoi ne pas reconnaître ce cher monsieur le curé qui fait un bien énorme. S'il y en a un qui est un apôtre du diocèse, c'est bien lui, et qui a fait énormément de bien à Ride, qui a construit la chapelle de Ride, pas seulement la nouvelle, mais même la chapelle du village de Ride, n'est-ce pas, vous savez bien. Alors, donc, vraiment, s'attaquer de cette manière à M. l'abbé Pinet, c'est vraiment incroyable, incroyable. Alors voilà, nous saurons bientôt alors ce qu'il en est de cette petite guerre, mais on peut dire que depuis quelque temps, il semble qu'un peu partout, dans tous les pays, il y a vraiment un effort de plus en plus grand pour éliminer les prêtres. Je ne dirais pas tellement contre la fraternité, je ne sais pas. Est-ce qu'ils savent que ça leur sert à rien d'attaquer la fraternité, qu'ils n'y peuvent rien, ils ne peuvent rien faire contre nous? Alors ils s'attaquent à des prêtres qui sont amis de la fraternité, mais qui ne font pas partie de la fraternité. C'est le cas de M. l'abbé Le Carreux, par exemple, tout près de Saint-Michel-en-Brenne, qui a 3 paroisses, n'est-ce pas? Et on a essayé de lui enlever ces 3 paroisses, mais les maires et les fidèles sont pour lui. Alors quand l'évêque est venu, il a trouvé un rassemblement de tous les fidèles et il n'a plus rien faire. Rien faire. Il a essayé de parler, mais ça n'a rien suivi à rien. Alors, heureusement que les gens sont encore restés calmes, mais s'il les avait excités un peu, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Les gens étaient furieux de penser qu'on allait leur enlever leur curé, nommé officiellement par le prédécesseur de cet évêque, qui est là depuis maintenant une quinzaine d'années, qui fait un bien énorme, qui a plusieurs prêtres avec lui et qui vend l'église toute la région. Alors on sait très bien qu'il n'y a plus de prêtres dans le diocèse. C'est un diocèse parmi les plus pauvres de France. Et alors on veut encore enlever un curé qui fait son devoir, qui fait son travail. Invraisemblable. On se demande vraiment comment raisonnent les évêques. À Garges-lès-Gonesse, tout près de Paris, il y avait le curé le père de Rel, qui avait une paroisse tout près de Paris, à Garges-lès-Gonesse, une des rares paroisses traditionnelles. L'évêque a tellement insisté que le curé a fini par partir. Encore une paroisse traditionnelle qui est fermée. À Port-Marly. Mais tout ça, c'est pas la fraternité, voyez-vous. Port-Marly, église qui est tout près de Paris aussi, qui était desservie par un prêtre un peu âgé, qui est bon musicien, tout ça, qui gardait l'ancienne messe. Il y avait un monde fou, la paroisse remplie tous les dimanches, peut-être plusieurs fois par dimanche, je ne sais pas, il y avait beaucoup de monde. On faisait beaucoup de mariages dans cette paroisse, c'est une paroisse très très vivante, la paroisse de Médiocèse de Versailles. Dès qu'il est mort, alors, bien sûr, on a voulu le remplacer par un prêtre progressiste, pas question de dire l'ancienne messe, pas question de continuer la tradition. Les paroissiens furieux ont occupé l'église. Occuper l'église. Et ils ont continué, ils ont trouvé des prêtres, ils ont fait dire la messe dans des prêtres amis dans cette église. Mais malheureusement, l'évêque a réussi à mettre de son côté les juges. Bah, il a pris un avocat, il a fait un procès, et la paroisse a été vidée par force, par la police. Et on a fermé l'église, bien simple, l'église est fermée. Et voilà, c'est pas. Voilà le résultat d'une persécution de l'évêque. Ah, incroyable. C'est incroyable. Alors, vous savez qu'au Gabon aussi, l'abbé Patrick Groche, que vous connaissez tous, presque tous, l'abbé Patrick Groche était là-bas depuis un an, quand, sous la pression des pères du Saint-Esprit, il faut bien le dire, de ma congrégation, mon ancienne congrégation, eh bien, les évêques ont fait effort pour empêcher l'abbé Groche de rester là. Ils sont allés chez le président du Gabon, Bongo, pour le supplier de faire partir ses prêtres qui mettaient la division dans le pays, parce qu'ils voyaient que quantité d'Africains venaient chez lui. Et il y a maintenant 200 personnes à la messe le dimanche et 100 enfants au catéchisme. Et ça augmente tout le temps. Les Africains sont très attachés à la tradition, c'est pas eux qui ont demandé de changer du tout. Ils chantent le latin à la perfection, ils chantent le grégorien à la perfection, ils savent par cœur des messes entières, invraisemblable. Ils aiment beaucoup ça. Ils sont très bons chants, enfin, d'ailleurs. Ils chantent très bien. Alors, ils étaient heureux, comme tout, de retrouver cela. Il a déjà une belle chorale et tout. C'est incroyable. Alors, les prêtres jaloux des environs, évidemment, aussitôt, on a trouvé les évêques, on ne peut pas garder ça, ils vont nous emmener tout le monde, etc. Pas continuer, il faut absolument dire au président de les chasser. Et ça a été à deux doigts. Il fallait faire intervenir même le cardinal Gagnon de Rome, tout ça, pour dire, enfin, quand même, que les évêques se calment quand même, et puis faire venir le gouvernement français. Donc c'est pour dire à Bongo, chasser des ressortissants français, alors qu'on admet des Gabonais chez nous, etc., pourquoi chasser des gens qui ne font pas de mal, qui ne font rien de mal. Alors le gouvernement est intervenu, et quoi, ça a l'air de, pour l'instant, d'être stoppé, mais pour dire, c'est dans les Indes, il y avait des prêtres qui étaient tout à fait avec nous, qui sont eux qui nous ont appelés, sont eux qui ont fait, l'abbé supérieur général pourrait vous dire ça beaucoup mieux que moi, mais il a fait appeler les prêtres, n'est-ce pas, là-bas. Eh bien, les évêques ont tellement menacé les prêtres, tellement menacé la population, ils sont venus même dans un village offrir de l'argent aux gens pour qu'ils ne viennent pas chez nous. Invraisemblable. Alors évidemment il y a eu un certain recul, les gens ont eu un peu peur, etc. Enfin, ils se sont éloignés un petit peu, mais enfin ça n'empêche pas, les prêtres sont un peu plus réservés, mais la population, il y a toute une population qui elle n'écoute rien et suit et comprend très bien que on est en train de détruire la religion catholique. Dans les cérémonies catholiques, il y a une cérémonie à Bouddha. On met sur l'autel la statue de Bouddha, et on encense pendant la cérémonie catholique, pendant la messe catholique, sous prétexte œcuméniste. D'être bien avec les bouddhistes. C'est invraisemblable. Alors, les gens sont furieux. Ben, c'est bien, les catholiques sont furieux. On leur a toujours dit qu'il fallait s'éloigner des fausses religions, de regarder cela comme de l'idolâtrie, et par conséquent de ne pas avoir de rapport avec ces gens-là, et d'essayer de les convertir au catholicisme. Et voilà, maintenant, on fait entrer Bouddha dans l'église catholique pendant la messe. C'est vrai. Alors, ces gens-là, ils ont fait des plaintes aux évêques. Les évêques ont dit, non, il faut suivre au curé, il ne faut pas vous rébeller, c'est maintenant après le concile, il faut bien comprendre, on n'est plus avant le concile, c'est comme ça. Après, alors, ils ont fait appel à Rome, et Rome a dit, écoutez vos évêques, vous suivez ce que vos évêques vous disent, rien n'a pu aboutir, rien d'autre. Vous voyez, c'est vraiment une situation incroyable. Par contre, par exemple, en Australie, il y a nos prêtres qui avaient fait un procès à propos du film, de ce fameux film sur la Sainte Vierge, l'Ave Maria, hein. Eh bien, ils ont gagné leur procès contre le film, si bien que maintenant, ceux qui diffusaient le film là-bas en Australie ont été obligés de payer une amende et payer le procès, les frais du procès, et arrêter la diffusion d'un film. Et là, ouais, ils sont tout contents, ils ont envoyé un télégramme il n'y a pas longtemps, ils ont dit « Deo gracias, on a gagné notre procès contre le mauvais film de la Indienne. » Et là, nous espérons pouvoir fonder un séminaire d'ici peu. Et nous, nous ne sommes pas exempts non plus. Vous savez que nous n'avons pas été exempts de la petite guerre qu'on nous mène partout. Enfin, sinon, on dirait de nos paroisses, mais ici même le séminaire. Vous avez pu voir dans les journaux, ils ont fait des gorges chaudes avec les transfuges des cônes. On ne parlait plus que des transfuges des cônes, comme s'il n'y avait plus personne à l'école, que tout le monde était parti. Alors que il y a eu en effet un effort fait de l'extérieur, par des prêtres de l'extérieur qui ont essayé d'effrayer nos jeunes séminaristes, surtout cette première année qui était là l'année dernière, mais s'ils les effrayaient en leur disant, mais Monseigneur va être excommunié, la fraternité va être excommuniée, faut partir, faut pas rester, vous allez être excommunié, vous partez, dépêchez-vous de partir. Alors, il y en a quelques-uns qui ont été un peu affolés sous cette pression, et ils ont été 8 ou 9 à partir l'année dernière. Alors tout de suite, on les a recueillis, on a promis de faire un séminaire à Rome pour les garder, on va leur donner la tradition, il ne faut pas qu'ils se fassent de soucis, on va leur donner la messe traditionnelle. Ça, ils l'ont déjà dit deux, trois fois, n'est-ce pas, à ceux qui sont partis. Il y en a quelques-uns qui ont parti du temps que mon jeune Alberto était parti. Il y a aussi un groupe qui est allé à Rome là-bas. Eh bien, ça n'a pas duré longtemps. La messe ancienne, elle leur a été dite pendant un mois ou deux, puis après ils sont passés à la messe nouvelle, bien sûr, puis ensuite on a fermé le séminaire, puis on leur a dit, allez dans vos séminaires respectifs, les Anglais chez les Anglais, les Américains chez les Américains, les Français chez les Français, puis c'est fini, pas terminé. Terminé. Ça va être la même chose ici. Alors ici, tout à fait, il y a eu une petite querelle entre Rome et les évêques français. C'est assez amusant, à propos de ce séminaire. Parce que quand il a été dit à Rome, on va faire un séminaire pour les transfuges d'école, en fait, je crois qu'ils y sont trois. Alors, ils ont 9 élèves pour le moment, et il y en a 3 qui viennent d'école, paraît-il. Alors, ils ont donc ils ont dit, on va faire un séminaire. Et les évêques français étaient furieux. Ils se sont dit, ah non, et puis vous allez faire un séminaire là-bas à Rome, et vous allez leur donner la messe ancienne. Mais alors, ben ça, c'est pas possible. C'est précisément ce qu'on ne veut pas. Alors, Monseigneur Villeneuve a eu cette phrase admirable, il a dit au pape, il a dit, on ne combat pas la tradition par la tradition. C'est admirable. Oui, d'un côté, il y a les Français, de l'autre côté, il y a Rome avec les souplesses italiennes, vous comprenez. À Rome, ils sont bien décidés aussi de lutter contre la tradition. Ils sont tous les deux d'accord pour lutter contre la tradition, mais par des moyens différents. Avant, on dit en leur donnant un petit quelque chose, après, c'est un appât, n'est-ce pas? C'est un hameçon qu'on lance, et puis après, on les tire vers la nouvelle messe, vers les nouvelles choses, on leur dit c'est fini, allez, pas d'histoire, maintenant, il ne faut pas venir. Les Français qui sont plus logiques, ils disent non, donnez la tradition, mais non, quand même. Alors, ils vont aller à Rome, puis on va leur donner la messe ancienne. Comment ça, c'est pas possible. Alors, on a dit bon, on va faire alors une espèce de. Ce sera pas un séminaire, ce sera un centre de spiritualité, un centre de recyclage, quelque chose comme ça. Et malgré tout, à Rome, on leur fait suivre des cours, quand même, paraît-il. C'est pour ça qu'il y a tout un esprit, vous voyez, de persécution. Ils sont, au fond, très ennuyés, bien sûr, très ennuyés. Moi, je pense qu'on arrive, vous savez, au temps où la tradition va quand même triompher. C'est pas possible autrement. Lorsque nos prêtres sont jeunes, grâce à Dieu. Et vous voyez, avec nos 34 séminaristes de Flavigny qui ont pris la soutane, c'est quand même un beau groupe. Et vraiment très édifiant d'ailleurs, des jeunes vraiment, vraiment bien. Eh bien, on tient l'avenir avec ça. C'est pas possible. Il n'est pas nécessaire d'avoir des prêtres traditionnels dans toutes les paroisses de France. Il suffit qu'on en ait dans chaque département un groupe ou deux. Et puis. Ça regroupe toute la tradition, c'est toute la ferveur, je dirais, de l'Église, toute la ferveur de la nation qui se retrouve auprès d'eux et qui revit, l'Église qui revit. Alors ils le savent bien, ils le sentent bien. Alors vous savez que, disons un petit mot de. Un petit mot de nos relations avec Rome. Bah, depuis un an, la situation des doutes que nous avons envoyés, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez dit l'année dernière, mais le cardinal Ratzinger avait demandé qu'on lui envoie les objections que nous avions contre le texte de la liberté religieuse du Concile Vatican II. Parce que pour nous, c'est le texte le plus grave, le plus dramatique. Parce que de là découle l'œcuménisme, et de l'œcuménisme découlent toutes les réformes de l'Église. Alors, il y a donc un esprit qui a changé dans l'Église. L'Église tolérait les fausses religions, ne leur donnait pas un droit à la liberté et à l'exercice. Tout à fait différent. Alors, nous avons fait des objections, nous avons fait 150 pages d'objections que nous avons envoyées au cardinal Ratzinger. Ça, je les ai déposées entre ses mains, je crois que c'était en novembre 85. Novembre 85. Ça fait donc presque 15 mois maintenant. Oui, il y a 15 à 16 mois, d'accord. Non, pas de réponse. Toujours pas de réponse. Or, il avait dit dans sa lettre l'année dernière, que la dernière lettre qu'il m'a envoyée, au mois de janvier l'année dernière, il avait dit, je vous promets que nous avons bien reçu les objections que vous avez contre la liberté religieuse et nous vous donnerons une réponse. Toujours pas de réponse. Je crois qu'ils sont vraiment très ennuyés pour répondre. Et ils ont reconnu que le document que nous avons fait, que nous avons envoyé, est très sérieux. Ils ont vérifié toutes les citations, car au fond, nous rassemblons toutes les citations de tous les documents de l'Église, documents des papes, documents des conciles, documents des pères de l'Église, documents de toutes sortes, pour montrer que l'Église n'a jamais accepté une chose comme celle-là. Jamais, jamais. C'est contraire à la doctrine de l'Église. Alors, ils ont reconnu que tous les documents étaient exacts. Ils ont vérifié si nos documents étaient bien justes, et c'est non pas juste, etc. Le Seigneur est obligé de dire, c'est un travail qui est bien fait. Je crois qu'ils sont très ennuyés pour répondre, pour s'opposer à toute une tradition de l'Église. La seule réponse qu'ils peuvent faire, et c'est la réponse qu'ils vont faire, autre temps, autre vérité. C'est tout. Oh, ben oui, mais ça, l'Église croyait ça autrefois. Oui, c'est une doctrine qui est enseignée par l'Église. Mais maintenant, dans notre temps, cette doctrine ne peut plus, pas possible de continuer à enseigner ça. Faut pas, la vérité est quelque chose de vivant, l'Église est vivante, la tradition est vivante. On ne peut pas en rester toujours à la même chose, il faut savoir vivre avec la vérité, vivre avec le... Alors, dans ce cas-là, il n'y a plus rien qui tient. S'il n'y a plus de vérité, si on peut dire le contraire de ce qu'a dit l'Église il y a 100 ans ou 200 ans, parce que, soi-disant, la vérité est vivante, alors ce qu'ils disent aujourd'hui, ça vaut rien non plus, parce que dans 50 ans, on dira le contraire. Alors, on n'en a plus de vérité, il n'y a plus de credo, il n'y a plus de dogme, il n'y a plus rien qui tient. Pas possible, ça. Pas possible. Alors, ils sont très ennuyés. Et on nous a envoyé un document de l'Assemblée épiscopale française. Je me demande si ça n'a pas été envoyé sur ordre du Vatican. Comme ils ne savent pas comment répondre, ils préparent un peu la réponse. C'est l'évêque de Carcassonne qui a fait donner ça au supérieur de l'école de Montréal, notre école de Montréal, l'abbé Vanier. Il a fait remettre un document de la part de l'épiscopat français en disant de l'envoyer, de l'envoyer à notre maison mère. Alors ce document est un document sur la liberté religieuse. Un document qui reprend beaucoup de nos textes et qui attaque les textes de GFM. Et alors leur réponse, ils disent, ben oui, mais c'est vrai, c'est sûr que ce qu'on dit, 11 papes, depuis Pie VI jusqu'à Pie XII, c'est pas, tous les papes ont condamné la Révolution française, condamné la Constitution des droits de l'homme, condamné toutes ces idées libérales, de cette lobby libéraliste pendant un siècle et demi, ils ont condamné, donc 11 papes, on a cité tous ces documents. Alors ils répondent, oui, mais c'est très dommage, parce qu'il faut reconnaître que ces papes n'ont pas su comprendre l'esprit chrétien qu'il y avait dans la Révolution française et la Constitution des droits de l'homme. Incroyable! Alors ces 11 papes, du revers de la main, voyez, on leur dit, oui, mais bien sûr, ils ont dit le contraire, c'est vrai, on ne peut pas nier qu'ils ont dit le contraire, c'est ce que nous affirmons maintenant. Mais c'est parce qu'ils n'ont rien compris à la situation historique. Ils ont été énervés, excités par l'époque, par le temps. Ils n'étaient pas capables de bien juger. Donc maintenant, après deux siècles, nous pouvons mieux juger des événements. Ah, mais ça va. Alors avec ça aussi, il n'y a plus de vérité possible. C'est ça qui nous reste. Probablement la réponse qui va nous être faite. On l'attend. On a encore eu une lettre dernièrement, ça, parce que beaucoup de gens veulent s'entremettre, vous savez, pour essayer d'arranger l'affaire des Cônes, l'affaire des Cônes, l'affaire de Monseigneur Lefebvre, l'affaire Lefebvre, etc. Donc, alors, il n'y a pas que les ecclésiastiques, il y avait des laïcs, en particulier M. Jean Guiton, l'académicien. Il voudrait finir ses jours sur cette gloire de pouvoir dire « c'est moi qui ai arrangé l'affaire entre Rome et Mgr Lefebvre ». Et il a 85 ans, il n'est pas tout jeune. Mais il a ses entrées à Rome, il peut aller voir le pape, etc. Alors il est allé voir le pape, alors le pape lui a dit « mais oui, mais essayez donc de convaincre Mgr, essayez donc de faire quelque chose pour que les choses s'arrangent, etc. » Mais à la condition, évidemment, que nous acceptions tous les textes du Concile sans discussion et que nous acceptions aussi la messe nouvelle, même si nous ne la disons pas, mais que nous reconnaissions qu'elle est bien, qu'elle est traditionnelle, qu'elle est bonne pour tout le monde. Ben, oui, pas de problème, ça ne fait aucun problème. Alors il a reçu une lettre du cardinal Casaroli, en réponse à une lettre qu'il avait faite au pape après sa visite. Et le cardinal Casaroli dit, oui, vous pouvez dire aussi, faire savoir à Mgr Lefebvre que nous avons toujours ces doutes là sur la liberté religieuse, là ces objections, mais, et que nous allons y répondre officiellement. Attendant, ça ne vient toujours pas. Mais. Donc ils l'ont dans la tête, ça. Et ça doit bien les agacer, bien les gêner. Parce qu'on ne peut pas, nier ce que toute une tradition de l'Église a fait, c'est pas possible. Ou alors, il faut trouver, comme je vous dis, des arguments comme cela, ben, la vérité change. Alors, si la vérité change, et c'est dans leur esprit, d'ailleurs. Ils ont été formés par ces philosophies subjectivistes, ces philosophies allemandes qui sont comme ça. La vérité, c'est ce que nous pensons à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, ça peut changer avec les époques, ça peut changer avec... Il n'y a rien d'objectif. Je vous entraîne trop loin. Alors ces temps-ci, après ces choses, c'est le dernier contact que j'ai eu avec le cardinal Gagnon, d'ailleurs, le supérieur général est allé le voir encore après moi. Le cardinal Gagnon est maintenant pratiquement celui qui établit les relations entre Rome et nous-mêmes. Parce que le cardinal Ratzinger est trop surchargé, trop occupé, alors c'est le cardinal Gagnon qui l'aide. Alors le cardinal Gagnon, il voit, je pense, les choses d'une manière beaucoup plus exacte, même que le cardinal Ratzinger, les choses de Rome. Et il en est effrayé. Et il nous disait, nous n'avons pas encore tout vu, c'est pas fini. On n'est pas arrivé au bout. Et lui-même, parfois, est un peu découragé. Il dit, oh, je retournerai bien dans mon Canada, d'où je viens, parce que vraiment, je ne vois pas de solution ici. Je ne sais pas comment nous allons sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes ici à Rome, je ne crois pas. Un homme un peu découragé, mais qui nous est très sympathique. Très sympathique. Et puis, je l'avais vu au mois d'octobre dernier. Depuis ce temps, j'ai eu, sous la pression du directeur, je ne sais pas s'il est là, notre cher directeur, mais... Il m'a invité à recevoir des gens de Trenta Giorni, cette revue romaine. Il voulait absolument que je les rencontre. J'ai eu une interview de 4h30 avec eux. Rendez-vous compte. Alors, après, bien sûr, ils ont fait un grand article qui a paru le 2 février sur leur revue Trenta Giorni, qui est une revue qui est très, très proche des milieux du Vatican, qui est bien vue par le cardinal Ratzinger, qui est une revue catholique, qui est très bien vue des milieux du Vatican. Alors, ils ont au moins une quinzaine de pages sur l'interview. Dans ce numéro de Trenta Giorni, le 2 février. Moi, je connaissais même pas la revue, bien sûr. Puis maintenant, alors ça fait un peu une bombe, parce que c'est une revue romaine, c'est lu par tous les milieux du Vatican. Alors, ils ont reçu un peu sur les doigts. Parce qu'on leur dit, qu'est-ce que vous avez besoin d'aller maintenant mettre comme ça sur les pavés des revues, puis interviewer avec Mgr Lefebvre, tout ça, ça va poser un tas de problèmes maintenant, tout ça, tous les problèmes qu'il a soulevés. Ah, c'était un peu un peu ennuyés, mais je crois qu'ils ne sont pas très émus par ça, parce qu'ils ont bien vendu le numéro. Alors, c'est ce qu'ils regardent avant tout, bien sûr. Nous en remercier chaleureusement, mais ils nous ont pas donné des dividendes. On est en Italie. Sans malin. Voilà, alors c'est ça. On a eu quelques, évidemment, quelques échos de cette revue. Mais je pense que ça n'a pas été inutile, parce que vous voyez, beaucoup se posent de problèmes, beaucoup ne connaissent pas bien Echo, beaucoup se font des idées sur ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons. Alors quand ils voient là, noir sur blanc, voilà, c'est comme ça, faisons ça, nous disons ça, nous professons ceci, nous avons des séminaires, nous faisons tout ça, pourquoi nous les faisons, tout ça. Alors ça clarifie. Et alors je voudrais terminer même cette petite causerie. Sur en attirant votre attention sur, je dirais, l'évolution des idées actuellement à Rome. Ça fait même 20 ans post-conciliaire, même 22 ans. Eh bien, les choses évoluent toujours un peu. Alors, tantôt, ils poussent dans l'œcuménisme. Vous avez vu la chose d'Assise, qui était une chose. Là aussi, on a mis Bouddha sur le tabernacle dans l'église Saint-Pierre, et on a pu voir dans les photographies, sur les films, les bouddhistes à l'intérieur de l'église Saint-Pierre à Assise adorer leur divinité. Mais sur le tabernacle, si c'est pas un sacrilège, moi je ne comprends plus rien, je sais plus ce que c'est qu'un sacrilège. Et on voyait sur la photo, on voit très bien la petite lampe du sanctuaire qui est au-dessus de la foule, qui désigne là où on a mis le Saint-Sacrement, dans un autre autel, parce qu'on a alors ouvert le tabernacle, là on a été ouvert, c'est un tabernacle principal, de l'autel principal, et c'était sur ce tabernacle qu'on avait mis Bouddha. Dans une église catholique, une divinité païenne, et ça avec l'accord du pape. Qu'est-ce que je dis, moi, c'est pas ma faute, c'était vu par tout le monde a vu ça à la télévision. Les photos sont là, pour montrer. Ce n'est pas l'œcuménisme. Enfin, l'œcuménisme, quand même, il y a un Dieu ou il n'y a pas un Dieu? Il y a plusieurs dieux. On peut encourager les gens à prier leur divinité païenne. Mais j'avoue, moi je croyais que c'était déjà le bout. Et Mgr Gagnon dit, oh non, c'est pas le bout, ils sont bien encore pire. Mais je ne sais pas. Vraiment, ça, j'imagine. Ça, c'est une tendance actuelle, donc, cet œcuménisme. Peut-être le pape, d'ailleurs c'était le Vatican, l'approuvait, disait qu'il irait peut-être au Parlement des religions, qui va se tenir à Tokyo cette année. Il est invité à venir à Tokyo, au Parlement des religions. Ah. Espérons qu'il n'ira pas. S'il y allait, ce serait en effet encore un scandale pire qu'à Assise, parce qu'alors là, il ne va pas être celui qui invite, il ne va donc pas être le premier. Et là, il était premier, mais premier au niveau des autres. Tout le monde était pareil, parce qu'on avait bien mis les petits tabourets, tous égaux, pour qu'il n'y ait pas un qui soit plus haut que l'autre, qu'on ne puisse pas dire qu'il y a une religion qui est plus haute que l'autre, qui est meilleure que l'autre, etc., tous au même niveau. Eh bien, là, qu'est-ce que ça va être là-bas? Il va être le troisième, le quatrième, parce que si c'est par le nombre des adhérents à la religion, ben maintenant les musulmans nous dépassent. Alors, il va être le deuxième, le troisième, là, comme ça, comme représentant de notre Seigneur. Au milieu de tous ces païens, le Seigneur est Dieu ou il n'est pas Dieu. Et on ne peut pas s'amuser avec ça, on ne joue pas avec le bon Dieu comme ça. Pourquoi se moquer du bon Dieu? On a sûrement attiré des choses effrayantes. Vous vous demandez, un jour on va se fâcher, c'est pas possible autrement, il est arrivé quelque chose. Alors maintenant, je pense qu'il y a une idée qui se poursuit, c'est une espèce de transformation interne de l'Église. Et on va le voir, surtout, je vous invite à faire attention au prochain synode. Le prochain synode va se faire sur les laïcs. Va avoir lieu, on va étudier la place des laïcs dans l'Église. Eh bien, je crains fort qu'on leur donne une place aux laïcs qui va finir par remplacer les prêtres, ou à peu près, à peu de choses près, le laïc va faire tout ce que le prêtre fait actuellement. Et ça, c'est une tendance générale. Comme on a eu tendance à séculariser le prêtre, à ne plus le distinguer des fidèles, on a défini l'Église, le peuple de Dieu, c'est-à-dire une distinction entre les laïcs et les prêtres, alors que c'était la définition de l'Église traditionnelle, et l'Église d'une société visible et hiérarchique, formée des clercs et des laïcs. Comme on pourrait dire, une famille, c'est une société formée des parents et des enfants. Ben oui, ben c'est normal. Ben l'Église, c'est une société formée des clercs et des laïcs, c'est-à-dire les clercs qui donnent la vie spirituelle, qui transmettent la vie spirituelle, et puis ceux qui la reçoivent. C'est pas un mystère. Dans la famille, ben, il y a les parents, il y a les enfants. C'est pas la même chose. Les parents donnent la vie et les enfants la reçoivent. Ben oui, ben c'est comme ça dans l'Église aussi, c'est comme ça dans l'Église. Mais non, 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 maintenant c'est le peuple de Dieu. Et dans le peuple de Dieu, alors chacun a sa fonction. Mais chacun a une fonction plus ou moins sacerdotale. Chacun sa fonction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Plus, on ne voit plus, il n'y a plus d'hiérarchie. Alors, ils ont supprimé presque tous les ordres, il ne reste plus que le diaconat et la prêtrise, n'est-ce pas ? Tous les ordres mineurs et le sous-diaconat étaient supprimés. Les diacres, maintenant beaucoup sont mariés. Où est-ce qu'on va arriver ? On arrive vraiment à la conclusion, à la fin d'une église laïcisée, et pratiquement protestantisée, ça va être comme les prêtres vont devenir des pasteurs. Et alors, il y aura des groupes de laïcs qui vont prendre en charge, des groupes de paroisses qui vont prendre en charge. C'est vraiment une transformation interne de l'Église, qui est tout simplement la destruction du sacerdoce. Ça va être la destruction de la prêtrise. Il n'y aura plus de vocation. Pour le moment, il y en a encore dans les pays qui sont derrière la rue d'Autrefer, il y en a encore dans les pays du tiers-monde, parce qu'ils sont des conditions un peu particulières, ils ne voient pas ces problèmes-là, ils ne saisissent pas ce qui se passe dans l'Église, ils ne voient pas bien. Et puis ceux qui sont affrontés aux difficultés de cette vie, aux persécutions, alors ceux-là ont encore peut-être l'idée de se donner au bon Dieu, devant les difficultés de la vie. Mais dans les pays traditionnellement catholiques, il n'y aura plus de prêtres. Où les prêtres ne sont plus ce qu'ils sont, ils n'ont plus rien d'un prêtre. C'est déjà presque comme ça, mais ça va aller en accélérant. Alors, d'où, vous voyez, l'immense importance de nos séminaires et de notre formation sacerdotale. C'est le salut de l'Église. C'est le salut de l'Église. Comment l'Église subsiste, il n'y a plus de prêtres. Il n'y a plus de prêtres qui les prêtres savent plus ce qu'ils sont. Déjà, on a tellement transformé la messe que la messe n'a plus de saveur chrétienne, plus de sens catholique, le sens catholique du sacrifice, le sens catholique qu'elle avait autrefois. Alors déjà, pour les prêtres, c'est une grande diminution. On ne parle plus de sacrifice de la messe, c'est toujours l'Eucharistie. On va offrir une Eucharistie, un partage, une communion, que sais-je. Il n'y a plus l'idée de sacrifice. L'idée de sacrifice, de propitiation, de rémission des péchés est essentielle à l'Église. Essentielle, nous sommes des pécheurs, nous avons besoin qu'on nous remette nos péchés, et le sacrifice de la messe nous remet nos péchés. Notre Seigneur est mort sur la croix pour ça. Et les prêtres ont été faits pour refaire ce sacrifice, pour le reproduire, pour effacer les péchés du monde. Pour ça. Maintenant, tout cet aspect sacrificiel, tout cet aspect de propitiation des péchés, d'expiation des péchés disparaît. On a affaire à un repas, un partage, une communauté entre hommes, entre les... C'est un peu le sens de l'Église. Donc ça, d'où l'importance. Alors ça, je recommande vraiment cela à vos prières. Et puis, enfin, que vous compreniez toujours davantage la grande nécessité de cette œuvre sacerdotale que nous essayons de continuer. On ne fait rien de nouveau, on n'invente rien, vous le savez bien, on peut continuer ce que l'Église a fait pendant des siècles, pendant toute sa vie, toute la vie de l'Église. C'est vraiment le seul salut. Alors, ils sont partis sur une voie qui est une impasse. Une impasse. Ils vont s'en apercevoir d'ici peu qu'ils ne peuvent plus ni avancer ni reculer. Ils vont être pris dans une véritable souricière. Ils ne vont plus avoir de prêtre, ils ne vont plus savoir quoi dire, faire de leur séminariste parce qu'ils n'auront plus l'idée du sacerdoce, le sacrifice n'aura plus de sens, les prêtres vont devenir des animateurs sociaux, c'est des gens beaucoup comme ça, des gens qui n'auront pas de raison de ne pas être mariés, tout ça, ils vont arriver dans une impasse. Ce n'est pas qu'on le souhaite, c'est pas qu'on le souhaite, mais c'est eux-mêmes qui ont voulu absolument prendre ce chemin-là de l'œcuménisme et de la transformation de l'Église. L'Église devient une chose universelle. Ce n'est plus l'institution de notre Seigneur pour sauver les âmes et par les prêtres, par les sacrements, par le Saint-Sacrifice de la Messe et par l'enseignement du catéchisme, mais ça par le baptême. Il faut entrer par le baptême, c'est la porte qui nous fait entrer dans l'Église. Maintenant non, puisqu'on peut sauver dans toutes les religions. Donc on peut entrer au ciel sans passer par l'Église. C'est la reine de l'Église. Pourquoi l'Église? C'est très très grave. C'est très grave. Les affirmations que le pape a fait depuis Assise, moi j'ai eu l'occasion de les lire quand j'étais Saint-Michel en Brenne, pendant l'agonie de ma sœur. J'ai lu tous ces journaux de l'Osservatore Romano français, avec tous les discours du pape, depuis le mois d'octobre jusqu'à la fin de décembre. Eh bien, il revient constamment là-dessus. Le Christ cosmique, le Christ chef de l'humanité, c'est vrai que le Christ centre du cosmos, mais entre ça, puis dire que parce qu'il est le centre du cosmos, tous ceux qui font de la religion, quelle que soit la religion, implicitement s'adressent à notre Seigneur et qui peuvent se sauver comme ça. Mais alors pourquoi l'institution d'Église? Pourquoi le sacrifice de la messe? Pourquoi les sacrements? Pourquoi le baptême? Pourquoi toute cette institution qui a vécu et qui par laquelle on se dit on ne peut pas sauver en dehors de l'Église? Alors maintenant toutes les portes sont grandes ouvertes et puis on peut sauver partout. Il n'y a plus de mission, il n'y a plus de missionnaires, c'est inutile tout ça. C'est très grave, très très grave. C'est un esprit qui se répand lentement, sûrement, qui se répand partout, même parmi les catholiques. Alors nous devons veiller à ça, pas nous laisser entraîner par ce courant qui n'est pas catholique, pas catholique. Ou alors l'Église s'est trompée pendant 20 siècles. Quand elle a dit à tout le monde, il n'y a de salut que dans l'Église. Il ne peut pas se sauver en dehors de l'Église. Que même ceux qui se sauvent chez les musulmans, eux, passent par l'Église, par le baptême de désir. Par le baptême de désir. Ils ne peuvent pas se sauver en dehors de l'Église, en dehors de notre Seigneur, en dehors du sacrifice de la mère, en dehors du sacrifice de la croix. Ce n'est pas possible. Mais non, non. Ça suffit. C'est encore des théories anciennes qui ont changé. Enfin, alors nous sommes bien résolus de continuer évidemment plus que jamais à susciter les vocations, à essayer de former de saints prêtres, de bons prêtres, fidèles à l'Église, fidèles à la tradition, fidèles au sacrifice de la messe, fidèles au sacrement, fidèles à l'enseignement de l'Église. Quoi qu'il arrive, c'est la foi qu'il faut sauver, absolument. Il faut sauver les âmes, il faut sauver les familles, il faut sauver la société. Il faut que notre Seigneur règne, absolument, n'est-ce pas ? Il ne régnera que par sa croix, par sa croix. C'est sa croix qui est son trône. Alors c'est aussi l'année de Fatima. Fatima, 70e anniversaire de l'apparition de Fatima. Alors, super général a préparer une réunion là-bas le 22 août à Fatima, pour tous ceux qui peuvent y aller, pour prier la Très-Sainte Vierge en ce 70e anniversaire, demander à la Très-Sainte Vierge de faire quelque chose. Elle est au courant de tout ce qui se passe, elle est au courant de toutes nos difficultés, de toutes ces misères de l'Église, toutes ces grandes misères. Eh bien, elle les a prévues, et c'est probablement parce qu'elle les a trop bien prévues et qu'elle les a trop bien décrites dans son secret, dans son troisième secret, que on n'a pas voulu qu'ils paraissent, parce que c'était précisément, c'était vraiment trop triste et trop épouvantable. Et puis ça touchait l'Église, ça touchait les prêtres, ça touchait le clergé. Alors, mieux vaut se taire, a dit le pape Jean XXIII. C'est pas ce que voulait la Sainte Vierge, parce qu'elle voulait que son secret soit révélé. Elle le voulait en 1960, C'est vraiment depuis 60 que l'Église a complètement fait une révolution à l'intérieur d'elle-même. Elle aurait peut-être évité, si le pape avait publié les lettres Fatima, elle aurait peut-être évité cette révolution, ce désastre de l'Église maintenant. Alors nous allons prier les lettres Sainte Vierge. Et je vous remercie encore de tout cœur de votre attention et de votre sympathie en répondant à notre invitation. Avec nous prions de tout cœur pour vos familles. Et pour nous, c'est un grand soutien et un grand secours de toutes ces familles chrétiennes qui restent dans la tradition, qui gardent la foi et qui sont la source des vocations. Beaucoup de parents qui sont ici, qui ont des enfants prêtres ou religieuses. Alors je les félicite. Et je pense que c'est là à l'avenir. C'est ça l'Église, voyez, c'est ça. Famille chrétienne, profondément chrétienne, attachée à la foi, attachée à la tradition, qui forme bien nos enfants. Et parmi les enfants, il y a des vocations. Vous retrouvez par là, les efforts que vous faites par l'éducation de vos enfants, pour l'éducation de vos enfants. Vous le retrouvez par ces prêtres, ces religieuses, que vous aimez, que vous admirez. J'ai reçu encore une lettre, là je vais les donner au directeur pour qu'il la lise aux élèves. Une lettre admirable, un jeune séminariste qui nous a d'ailleurs quitté, qui est officier maintenant, et qui a rencontré un jeune officier qui ne croyait plus à rien, qui avait perdu la foi, perdu en Église. Il l'a repris un peu en main et il lui a dit il faut venir avec moi. Et puis, alors, lui a passé quelques livres de la tradition, et puis il l'a emmené à Saint-Nicolas du Chardonnay. Il est marié, ce jeune officier, cet autre officier est marié, a trois enfants. Et quand il a découvert Saint-Nicolas du Chardonnay, ça a été une révélation pour lui. Il dit, ah, enfin, je crois que je vais retrouver la foi. Et puis après, ce jeune ancien abbé, a dit à Sophie, vous devriez faire une retraite de Saint-Ignace. Il est allé faire la retraite de Saint-Ignace. Il est revenu. Alors il m'a écrit une lettre émouvante, je l'assure, c'était vraiment beau. Alors, en disant, Monseigneur, je crois que vous ne savez pas ce que vous avez fait en faisant les prêtres que vous avez ordonnés. Vous ne vous rendez pas compte du bien que vous pouvez faire par l'intermédiaire de vos prêtres et de la tradition. C'est merveilleux. Pour moi, en tout cas, ma vie est complètement transformée depuis que j'ai retrouvé la tradition. Et moi et mon épouse, nous saurions trop vous dire combien nous vous remercions de ce que vous faites. Moi, évidemment, je ne suis pas le seul, et puis là, vous êtes tout le monde collabore. Mais je crois vraiment que beaucoup, c'est vrai pour beaucoup, que ce contact avec la vérité, tout simplement, avec la grâce du bon Dieu, avec Dieu, tout simplement, avec notre Seigneur, dans les sacrements, dans la vérité, a transformé les âmes, évidemment. C'est ce que le bon Dieu a toujours fait. Alors, continuons et ne craignons pas même les persécutions. Et puis, entourez votre bon curé de Lille, entourons-le de notre affection dans les persécutions qu'il subit. Mais je ne crains pas, il est assez physiquement et moralement, il tient le coup.